Vous écoutez, on lit pour vous.
Toujours difficile pour les aînés LGBTQ+, de vieillir en résidence. Un texte de Catherine Desautels, paru le 2 mars 2025 dans Le Devoir. Une certaine sensibilisation aux enjeux LGBTQ+, s'opère dans les milieux pour aînés, mais ce n'est pas révolutionnaire, selon des experts. De nombreuses personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre retournent dans le placard lorsqu'elles débarquent en résidence et elles évitent même les services de santé par crainte d'être pointées du doigt. Citation : Il y a une forte volonté des personnes homosexuelles de rester à domicile et de mourir à domicile. Vous me direz que c'est tout le monde, mais encore plus, je crois, chez les personnes homosexuelles. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à une crainte de s'adresser au service. Ellipse. Ils ne veulent pas une prise en charge tellement ils n'ont pas confiance. C'est plate parce que ça veut dire qu'ils se privent de soins de santé. Fin de citation. Expliqué en entrevue au début de l'année, Lynn Chamberlain, professeure retraitée associée au département de sexologie de l'UQAM. Julien Rougerie, spécialiste contenu diversité sexuelle et pluralité des genres à la Fondation Émergence, soulève que même lorsqu'ils habitent encore dans leur maison, les aînés LGBTQ+, qui ont besoin de services à domicile, vont hésiter à en faire la demande parce qu'ils auront peur de la réaction d'autrui. Citation. C'est quand même assez bien documenté. Les minorités sexuelles et de genre hésitent à aller vers les services sociaux et de santé et les services communautaires parce qu'elles doutent que ce sera inclusif. Fin de citation. Soulignait M. Rougerie lors d'une entrevue en décembre. Citation. Parfois, le domicile, c'est le seul lieu où les personnes s'autorisent à être elles-mêmes. Fin de citation, poursuit-il. Avant de laisser entrer quelqu'un, certaines personnes vont se demander si elles ne devraient pas retirer des éléments de leur maison qui pourraient divulguer qu'elles sont LGBTQ+, par exemple, des photos de leur conjoint ou conjointe. Des personnes âgées LGBTQ+, se sentent contraintes de retourner ou de rester dans le placard dans les milieux pour aînés, notamment parce qu'elles ont vécu dans une société où c'était un crime, une maladie, une honte, explique M. Rougerie. Citation. Il y a aussi le fait que la société continue d'être hétéronormative. On reste quand même dans une société où la norme, c'est le fait d'être hétérosexuel ou cisgenre. C'est toujours très vrai dans les milieux aînés. Fin de citation, indique-t-il. En plus de la stigmatisation sexuelle et de genre, l'âgisme vient s'ajouter au lot pour les aînés. Citation. On est une société très âgiste, fait valoir M. Rougerie. On l'a vu un petit peu pendant la COVID. Comment on traite les personnes âgées dans notre société? C'est deux choses qui invisibilisent. Les personnes âgées, on les réduit à des stéréotypes de personnes âgées, et les personnes LGBTQ+, on les réduit à des enjeux de sexualité. Ellipse. Tout ça, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'humanisation des personnes aînées. Fin de citation. Madame Chamberlain nuance que la stigmatisation peut être vécue différemment selon l'âge. Citation. Les plus âgés, ceux qui ont vécu leur vingtaine et leur trentaine avant les années 1970, ils avaient tellement l'habitude du placard que c'est plus incorporé en eux et en elles de ne pas le dire. Ils n'ont pas toujours le sentiment de se cacher lorsque ce n'est pas dit, parce que c'est comme ça qu'ils se sont protégés toute leur vie. Ils ont vécu dans un environnement hostile, souvent sans le clamer. Fin de citation. Elle souligne que les baby-boomers, âgés entre 60 et 80 ans, ont connu des périodes d'ouverture et de gains législatifs. Citation. Ils ont pris l'habitude de ne pas dissimuler des gestes et des situations de vie. Pour eux, c'est difficile. Fin de citation, dit-elle. Sensibiliser lentement, mais sûrement. Madame Chamberlain, également membre de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM, soutient qu'il n'y a pas vraiment d'enquête en cours qui examine spécifiquement la situation dans les résidences pour personnes âgées au Québec. Elle affirme que, lorsqu'il y a des recherches, c'est très difficile de recruter des participants dans les résidences. Citation. C'est un indice que ce n'est pas si ouvert que ça. Fin de citation, dit-elle. La Fondation Émergence donne depuis 15 ans des formations dans les milieux pour aînés qui s'adressent surtout aux employés de ces milieux. La Fondation offre aussi des cafés-causeries et des ateliers pour les résidents. Les effets de ce programme sont difficiles à évaluer, selon Mme Chamberlain. Citation : Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus d'ouverture qu'il y en avait il y a une dizaine d'années envers ces questions. Fin de citation, souligne-t-elle. Ceci dit, elle mentionne qu'il est difficile de savoir comment l'information et la sensibilisation sont retenues par les employés et comment cela est appliqué. Citation : Ce qu'on sait, c'est que les aînés, a priori, ont beaucoup d'anticipations assez négatives quant à l'accueil qui leur serait fait dans les résidences. Ça varie, mais les personnes trans et non-binaires sont celles qui sont les plus craintives. C'est vraiment très fort comme appréhension. Fin de citation, indique Mme Chamberlain. De son côté, M. Rougerie estime que les milieux pour aînés deviennent un peu plus accueillants, même que certaines résidences contactent la Fondation spontanément pour avoir des formations. Il a raconté qu'auparavant, la Fondation Émergence devait convaincre les résidences que ça existait, les aînés LGBTQ+, certaines affirmant qu'elles n'en avaient pas chez elles. Citation : Il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite dans les dernières années. Après, ce n'est pas révolutionnaire. Tous les milieux ne sont pas en train de se sensibiliser, malheureusement. Mais il y a un effet boule de neige qui est en cours, même si la boule de neige est de taille modeste pour le moment. Fin de citation, commente M. Rougerie. Les générations plus jeunes ne devraient pas vivre le même genre de stigmatisation lorsqu'elles seront vieilles. Citation : Les personnes âgées LGBTQ+ d'aujourd'hui ont vécu dans une société tellement hostile à la diversité sexuelle et de genre pendant une bonne partie de leur vie, du moins, qu'elles n'ont pas eu d'autre choix que de le cacher pour une question de survie, raconte M. Rougerie. Les personnes qui sont jeunes aujourd'hui, elles l'auront moins vécu quand elles seront rendues à un âge avancé. Fin de citation. C'était « Toujours difficile pour les aînés LGBTQ+, de vieillir en résidence », un texte de Catherine Desautels, paru le 2 mars 2025 dans « Le Devoir ».
Une solution toute simple permet de garder une personne autiste au travail. Un texte de Stéphane Laroche, paru le 5 mars 2025 dans l'Hebdo Journal. Flavie Lemay-Collin est copropriétaire avec son conjoint de la confiserie Snack Shop sur la rue Barkov. Elle a embauché comme employée celle qui gardait ses enfants depuis plusieurs années, quelqu'un en qui elle a confiance et chez qui elle a pu observer plusieurs compétences. Léa Arsenault-Perrault vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Le seul obstacle qu'elle rencontre, c'est quand vient le temps de rendre la monnaie aux clients. Employée depuis maintenant un peu plus d'un an, Léa avoue aujourd'hui qu'elle était loin d'être enchantée par la proposition que lui avait faite sa future patronne. « Quand une place s'est libérée dans mon équipe, je lui ai proposé de venir l'essayer. Je la voyais travailler ici. Les employés que j'ai, ce sont toutes des jeunes filles entre 16 et 19 ans. Je trouvais qu'elle avait sa place dans l'équipe. Elle a une belle énergie et je lui ai proposé. Je savais qu'elle avait toutes les qualités nécessaires pour tenir un magasin. » Léa, qui aura bientôt 19 ans, a aussi reçu des diagnostics de dyslexie, de dysorthographie sévère et de dyscalculie sévère. Elle n'en est pas à son premier emploi. « J'ai travaillé dans des camps de jour réguliers. Après, j'ai été 2 étés avec des jeunes en DITSA, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, dont à la maison Grandiose. Les premières semaines où elle a débuté son emploi au commerce, elle était toujours en équipe avec un collègue qui s'occupait de faire payer les clients. Quand elle s'est mise à travailler toute seule, la caisse débalançait à chaque shift, raconte Flavie. Mon chum disait « On s'en fout, on va endosser ces débalancements. Léa, c'est notre petite gardienne. On ne la congédiera jamais. Surtout pas pour ça. C'était souvent des centaines de dollars en dessous à la fin du mois. Ce n'est pas parce que j'endosse ces pertes-là que la solution est trouvée. Le problème reste. Je voulais qu'on trouve une solution pour régler ce problème. Les ressources manquent. Flavie multiplie les démarches auprès d'organismes œuvrant dans le monde du travail ou auprès des personnes autistes. Elle a réalisé le manque de ressources pour lui venir en aide dans un délai raisonnable. Tout le monde me dirigeait vers SEMO Mauricie. Ils sont tellement débordés qu'il n'y avait pas de place pour nous voir avant des semaines, voire des mois. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un intervenant en milieu de travail pour évaluer la personne, savoir où se situent ses difficultés et on essaie de trouver une solution. Je suis allé voir leur site Internet. C'est super pertinent comme organisme, mais il y a trop de demandes versus ce qu'ils sont capables d'offrir. Ce n'est pas de leur faute. Je comprends. J'imagine que c'est un problème d'employés et de ressources financières. SEMO Mauricie aide les employeurs au niveau de l'intégration en milieu de travail et du maintien en emploi de toute personne âgée de 16 ans et plus ayant des limitations fonctionnelles. C'est finalement sur les réseaux sociaux qu'une solution est rapidement apparue. Les internautes ont été touchés que Flavie tienne à ce point à garder son employé. J'ai contacté Bleuet Atypique. Ses réseaux sociaux sont voués aux personnes autistes. Elle a une belle communauté qui la suit, autant de personnes autistes que des parents, des familles. Elle a fait un appel à tous. Un programmeur, autiste lui aussi, Mathieu Boniton, a conçu une application en moins d'une heure. Dès le lendemain, j'avais la solution. Il a été touché, premièrement, par le fait qu'il n'y avait pas de solution et que ce soit une solution si simple. Deuxièmement, par le fait qu'une jeune fille autiste veuille travailler, que c'est son seul obstacle, puis par moi, l'employeur, qui veut laisser la place à Léa. Je suis en mode gratitude qu'il ait créé ça. Pour Léa, mais pour toutes les jeunes personnes autistes qui vont travailler dans des boutiques. L'application indique à Léa le nombre de pièces de monnaie ou de billets qu'elle doit rendre au client. Quand, exemple, je n'ai plus de 25 cents, là, c'est plus long. Je le sais que c'est 2 10 cents et 1 5 cents. C'est juste plus long, mais j'y arrive. Flavie et Léa évaluent que moins du tiers des clients payent en argent plutôt qu'avec une carte. Les cartes de travail de Léa sont plus propices à un type de clientèle davantage porté à des paiements comptants. Vu que je travaille le vendredi soir et le samedi, il y a plus de familles, il y a plus d'enfants avec leur argent de poche ou les parents qui donnent 5 $ à chaque enfant. Léa n'hésite pas à partager son histoire sur les réseaux sociaux. Elle reçoit de nombreux témoignages et même des visites en magasin de la part de gens qui admirent sa détermination, ce qui confirme à Léa qu'elle a bien fait de persister pour la conserver dans son entreprise. Ne vous privez pas d'un bon employé, parce que les ressources peuvent être faciles à trouver. Léa est super bonne. Elle fait très bien son travail et tout le monde l'aime. Ce serait plate si son seul frein l'empêchait de travailler. J'aimerais que d'autres employeurs suivent nos traces parce que tout le monde mérite d'avoir un travail et de gagner sa vie comme il le veut. C'était « Une solution toute simple permet de garder une personne autiste au travail », un texte de Stéphane Laroche paru le 5 mars 2025 dans l'Hebdo Journal.
Explosion de l'abus et de l'intimidation auprès des aînés lors de prestations de soins. Un texte de Catherine Desautels, paru le 5 mars 2025 dans la presse. Montréal. On observe une augmentation du nombre d'incidents et des accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec. La moitié des événements se sont produits en centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, et le tiers en centres hospitaliers. Mais ce qui frappe le plus est l'explosion du nombre de cas d'abus auprès des aînés en contexte de soins. Selon un rapport annuel du ministère de la Santé et des Services sociaux, publié mercredi, le nombre de déclarations en général connaissait une baisse depuis quelques années, mais une augmentation a été constatée dans la dernière année. Le rapport du ministère couvre la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. On y constate que les personnes âgées de 75 ans et plus sont plus touchées par les incidents ou les accidents. C'est près de 60 % des déclarations qui visent ce groupe d'âge. Les femmes sont aussi surreprésentées. 52,8 % des cas les concernent. La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, a qualifié le rapport d'accablant dans un communiqué. La députée libérale a souligné que les aînés de 65 ans et plus sont victimes de 74 % de l'ensemble des incidents et accidents survenus en 2023-2024 et que les 75 ans et plus représentent plus de la moitié, 52 % des personnes victimes d'abus, d'agressions, de harcèlement et d'intimidation. De plus, il y a eu 13 décès chez les aînés associés à ces causes. Dans les CHSLD uniquement, on dénombre plus de 10 000 cas d'abus, d'agressions, de harcèlement et d'intimidation. C'est grave. On ne peut rester les bras croisés devant des résultats aussi effarants, commente Mme Caron. Les problèmes d'abus, d'agression, de harcèlement ou d'intimidation, pour lesquels des conséquences permanentes sont constatées, continuent d'augmenter, soulève le rapport. Ils ont quasiment doublé depuis 2 ans, alors que leur nombre n'était que de 22 déclarations en 2021-2022. Globalement, les types d'accidents et d'incidents les plus fréquents sont les chutes et quasi-chutes, 41 % suivi des événements en lien avec la médication, 23 % Les événements de type « autre », qui comprennent notamment des bris de confidentialité, des fugues ou disparitions, obstructions respiratoires et des plaies de pression, comptent pour 18 % Le rapport indique qu'il y a eu environ 56 000 incidents pour la période 2023-2024, ce qui représente une hausse de 13 % en comparaison avec l'année dernière. Les incidents sont décrits comme une action ou une situation qui n'entraîne pas de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager, mais qui pourrait occasionner dans le futur des conséquences. Les incidents sont des événements qui ne touchent pas l'usager. L'action ou la situation est décelée avant qu'elle ne puisse l'atteindre et avoir des conséquences sur ce dernier, précise-t-on dans le rapport. En ce qui concerne les accidents, on en compte un peu plus de 446 500, soit une augmentation de 8,35 % comparativement à l'an dernier. Les accidents sont définis comme une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager. Il est important de souligner que, bien que le nombre d'accidents ou d'incidents ait connu une croissance, la proportion par rapport au nombre de soins prodigués est comparable à celle de l'an dernier. Pour la période analysée en 2023-2024, on compte 6,3 millions de consultations médicales en établissement, 3,6 millions de visites aux urgences, 210 millions d'analyses en laboratoire et près de 506 200 chirurgies qui ont été réalisées. Par ailleurs, environ 16 400 déclarations ont été exclues du rapport parce qu'elles ne comprenaient pas toutes les informations devant obligatoirement être remplies pour permettre une analyse adéquate. La grande majorité des événements déclarés, 99,7 % n'ont entraîné aucune conséquence grave ou permanente. Environ 774 événements, 0,15 % sont à l'origine de conséquences graves et permanentes, et 679 accidents, 0,14%, ont été associés à un décès. La déclaration des incidents et des accidents et la mise en place du Registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux découle d'obligations légales. Ce rapport intègre les incidents et les accidents survenus dans les établissements publics et privés. C'était « Explosion de l'abus et de l'intimidation auprès des aînés lors de prestations de soins », un texte de Catherine Desautels, paru le 5 mars 2025 dans La Presse.
L'intelligence artificielle au service de la persévérance scolaire. Un texte de Pierre Michaud paru le 4 mars 2025 dans le journal Le Guide. En 2020, le Centre de services scolaires du Val-des-Serres, CSSVDC, a fait figure de pionnier en se servant de l'intelligence artificielle, IA, pour contrer le décrochage scolaire. Le procédé a fait boule de neige et est maintenant appliqué partout au Québec. L'outil de prédiction du décrochage scolaire, dont le précédent directeur général de Val-des-Serres, Éric Racine, a été l'instigateur, a continué à être utilisé après son départ à la retraite. Pour l'année scolaire actuelle, le ministère de l'Éducation a développé un système basé sur l'IA qui ressemble à celui du CSSVDC et qui est en voie d'implantation dans l'ensemble des centres de services scolaires. Citation. Nous nous servons des deux outils actuellement et nous faisons graduellement la transition pour utiliser uniquement celui du ministère prochainement. Fin de citation, explique celui qui est actuellement directeur général du CSSVDC, Carl Morissette. Le but étant d'avoir une uniformité dans la prédiction du décrochage scolaire partout au Québec. Comment ça fonctionne? Concrètement, une multitude de variables sont prises en compte par l'intelligence artificielle pour générer ces pronostics ciblés sur les risques de décrochage scolaire chez les jeunes. Le système analyse, entre autres, le taux d'absentéisme d'un élève, la progression de ses résultats scolaires, l'historique de ses échecs ou encore le nombre de fois où il a déménagé dans les dernières années. Citation. Il y a donc plusieurs facteurs qui sont pris en compte, ce qui amène à une proportion de chances qu'un enfant décroche après le troisième secondaire, par exemple. Fin de citation, raconte le DG pour illustrer le fonctionnement de l'outil de prévision. Ces résultats sont analysés dès la fin du primaire des élèves et deviennent de plus en plus précis durant les années suivantes. Citation, cela nous donne une idée de quels élèves sont plus à surveiller et nous indique comment on peut mieux travailler avec ces jeunes spécifiquement. Fin de citation, ajoute M. Morissette. L'IA dans les classes, où en est-on? Pour l'instant, peu d'enseignants utilisent l'intelligence artificielle en classe, mais ceux du secondaire sont interpellés par ces nouveaux outils parce que des élèves peuvent utiliser l'IA pour leurs travaux de recherche ou leurs devoirs faits à la maison. Une réflexion à ce sujet a lieu actuellement dans les centres de services scolaires pour définir comment les enseignants peuvent baliser adéquatement le recours à des systèmes d'IA tels que Copilot ou ChatGPT. Citation. Nous en sommes encore à apprendre comment composer avec les outils basés sur l'intelligence artificielle. Fin de citation, résume Carl Morissette, qui observe que le recours à l'IA au secondaire n'est pas un fléau en ce moment. À ce sujet, certains enseignants commencent à revoir leurs pratiques en ce qui concerne les travaux à la maison qu'ils demandent à leurs élèves. Citation, cela amène plusieurs questionnements en ce moment, mais nous n'avons pas encore trouvé les réponses à tout. Fin de citation, conclut le DG de Val-des-Serres. C'était « L'intelligence artificielle au service de la persévérance scolaire », un texte de Pierre Michaud, paru le 4 mars 2025 dans le journal Le Guide.
Nouveau circuit de transport Saint-Donat-Sainte-Agathe. Un texte de Gabriel Sartou, paru le 3 mars 2025 dans l'Info du Nord. Saint-Donat a annoncé la mise en place d'un nouveau circuit de taxibus reliant Saint-Donat à Sainte-Agathe-des-Monts. Ce service de transport collectif flexible est rendu possible grâce à la collaboration avec le transport adapté et collectif des Laurentides, TACL, et offrira deux départs et deux arrivées quotidiens à Saint-Donat, avec 4 points d'embarquement et 4 arrêts de débarquement. Selon Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, ce projet résulte d'une volonté municipale de maintenir un service de transport collectif efficace et abordable. Suite à l'abandon du taxibus par la MRC de Matawini, parce que les coûts étaient rendus trop astronomiques pour maintenir le taxibus dans les 15 municipalités de la MRC, on a réfléchi pour établir le service. Le projet a vu le jour grâce à une concertation entre différents acteurs. Une alternative de transport économique et durable. Ce nouveau circuit constitue une alternative abordable pour les résidents de Saint-Donat. Pour le prix d'un billet, les usagers pourront voyager non seulement jusqu'à Sainte-Agathe-des-Monts, mais aussi poursuivre leur trajet jusqu'à Saint-Jérôme ou Mont-Tremblant via les correspondances de l'Inter des Laurentides. C'est du transport collectif, c'est une alternative supplémentaire. À l'ultime, les gens peuvent se rendre à Montréal via Sainte-Agathe. C'est sûr qu'il y a un coût pour le transfert à Saint-Jérôme, mais écoute, c'est de toute beauté, affirme M. Deslauriers. Un service appelé à évoluer. Le maire Joé Deslauriers insiste sur l'importance d'utiliser ce service afin d'assurer sa pérennité. On souhaite que les gens réservent la veille, qu'ils utilisent le transport. On ne veut pas dire que c'est un projet pilote ou un projet test, il est là pour durer, mais on souhaite que les gens l'utilisent. Il affirme que si la demande justifie une augmentation de l'offre, des ajustements pourront être envisagés à l'avenir. Le rendez-vous est donc donné dès le début du mois de mars 2025 pour le lancement de ce nouveau circuit. Lors de la réservation, l'usager devra préciser son point d'embarquement et son arrêt de débarquement. C'était « Nouveau circuit de transport Saint-Donat-Sainte-Agathe », un texte de Gabriel Sartou paru le 3 mars 2025 dans l'Info du Nord.